Merci musicien, bravo, Dieu vous bénisse. On est content parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre frère Dominique, le plus ancien de la communauté, et qui aujourd'hui, oh non, on va pas dire son âge.
Non.
72 ans. C'est ça? Hein? Oui, c'est ça. C'est un bon frère. Enfin, je remercie tous les frères et sœurs qui ont bossé vraiment. Moi, je vous suis reconnaissant pour le toit, pour mon bureau. Vous m'avez aidé à transformer, pour tous les bons petits plats que vous nous faites tout le temps, pour tout est toujours bien propre, bien en ordre. Vraiment, merci pour tout. Vraiment, je vous aime. Pas seulement pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci.
Je vais vous lire dans la Bible, dans Jean chapitre 10, verset 22 à 30. J'avais des petits bouts de papier. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et ils lui dirent, quand ils disent les Juifs, c'est pas les Juifs, c'est les religieux juifs. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire comprennent. Parce que vous n'êtes pas mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider, mais bon. Ah. Toute ma vie, ça n'était qu'une série de miracles. D'abord, premièrement, pour commencer, ma mère était stérile pendant des années, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils étaient découragés. Et un jour, ma mère, elle a crié à Dieu, elle était dans sa chambre à coucher, elle n'a pas fait attention, elle était au rez-de-chaussée. Et juste devant sa fenêtre, il y avait un banc avec des dames de l'immeuble, et puis elle a crié « Seigneur, donne-moi un fils, je te le donnerai, je te le consacrerai pour qu'il soit ton serviteur, mais donne-moi un fils !» Elle criait, elle pleurait, puis après elle s'est rendue compte que tout le monde l'a entendu. Mais tant pis pour les dames qui l'ont entendu et qui ont trouvé ça ridicule, Dieu a entendu, et hop, ça y est, je suis arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, mon père a dit « Bon, écoute, on va faire un voyage, on va profiter de l'un de l'autre, on va aller... » Puis ils sont descendus, ils sont allés à Marseille, et ils ont dû rentrer parce que ma mère commençait à se sentir pas bien, et quand elle est rentrée, le médecin lui a dit « Madame Jonton, vous êtes enceinte ?»«
Oh,
si !» Et puis, à l'époque, on faisait pas d'échographie, on faisait rien, donc... J'ai failli m'appeler Huguette. C'était Huguette, puis après c'était Christian. Et mon père a dit, non, je n'aime pas ce nom-là, Christian, parce que dans le mot Christian, il y a Christ, puis je n'aime pas ça. Alors, ma mère a dit, ben alors Michel, ben d'accord. Non, ce qu'ils ignoraient, c'est que Michel, ça signifie « qui est comme Dieu » sous la forme interrogative. C'est un peu comme Christian. c'est bizarre les choses. Hein. Donc je suis né le 5 février 1950, c'est bientôt mon anniversaire. Je vous le dis pour que vous ayez le temps d'économiser. Et je suis né une deuxième fois le 1er juin 1968 quand le prédicateur Giton Raphaël est venu prêcher à Lausanne. Et c'est Dieu, notre Père, qui a fait ça. Personne ne peut me ravir de sa main. Il y en a qui ont essayé de nous enterrer, mais ils ont oublié qu'on est des semences, on repousse tout le temps. Jésus était clair, il disait qu'il était le Christ, Il m'a oint, on va lire, dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Verset 22. Non, je ne sais pas. Non, c'est 30. Verset 30. Non, je pense pas.
Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi.
C'est quel verset?
C'est
4-18.
C'est 4-18, excuse-moi. Oui, c'est Jésus, donc on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il était dans une synagogue. Synagogue, ça signifie assemblée. Hein? Le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Toute la synagogue, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est-à-dire « Je suis le oint. » Oint, ça veut dire Christ. Alors, on peut être oint pour être quelque chose. On était oint pour être roi, on était oint... Mais là, il dit, je suis oint pour, et il explique pourquoi. Et c'était le rôle du Messie qu'il devait remplir, ce qui était annoncé par les prophètes. Il m'a oint. Cela signifie qu'il était le Christ, il l'a dit clairement. Jésus dit qu'une personne ointe, elle est ointe pour quelque chose. Un prophète arrivait, il mettait de l'huile sur un homme et il le oignait, il devenait roi, etc. Vous connaissez les Écritures, j'espère. Jésus déclara que l'Écriture qu'il venait de lire était accomplie. C'est-à-dire, il dit clairement, je suis le Christ. Et il a fait tout ce que les Écritures saintes disent que le Christ ferait. Tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, il l'a accompli. Et aujourd'hui, les oints font tout ce que Jésus a dit qu'ils pourraient faire. On dira, bon, il y a des Christs, oui, il y a des gens qui sont oints, mais pour quelque chose. Non. Un chrétien n'est pas oint pour aller mourir sur la croix, ça c'était l'œuvre de Jésus, mais on est là pour faire les mêmes choses qu'il a faites lui. Vous ne me croyez pas? Ben, je vais vous le lire dans Jean chapitre 14, verset 11 à 14, voilà ce qu'il dit. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. » C'est-à-dire de ces miracles. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi en fera aussi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, les miracles que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà ce que fait un oint aujourd'hui. C'est ce que vous devriez tous faire. Et souvent, on croise des gens qui sont mal foutus dans la rue. L'autre jour, j'ai croisé encore un jeune homme qui marchait avec une béquille. Ah, j'ai dit ça, c'est moi il y a quelques mois, parce que je me suis cassé le talon d'Achille et je marchais avec une béquille. Ça vous fait mal ce que vous avez dit? Ben oui, un peu. Je marche avec une béquille depuis 2 jours. Je lui ai posé ma main sur son épaule. J'ai dit que Dieu vous bénisse et qu'il vous rétablisse rapidement. Mais c'est pas difficile de faire ça. Il suffit d'être gentil. Et puis les gens, ils acceptent. Hein. C'est pas difficile. Le problème, c'est qui a cru en son temps que Jésus était le Messie? Mais pas grand monde. Ils ont fini par le crucifier. Et qui croira que vous avez été envoyé de Dieu? Même si vous faites des miracles au nom, c'est-à-dire de la part de Jésus, par la puissance de Jésus qui est en vous, même si vous faites des miracles, ça, les gens ne vont pas croire que vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu. Ils vont dire, oui, mais ça aurait dû arriver. Oui, mais, enfin, n'importe quoi. Je connais, hein, ça fait depuis 1968 que j'entends des balivernes comme ça. Et même des gens qui ont vu des miracles m'ont renié, m'ont balancé comme une vieille chaussette. Alors, c'est bon, vous savez, voilà, ce qu'ils ont fait à Jésus, ils le font à ses serviteurs aussi. Jésus répond à cette question dans Jean 10, 26, il dit, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » C'est choc ça, hein? Une personne peut voir des miracles, pleurer en les voyant, mais ne pas croire. C'est-à-dire, voilà, quand on croit, c'est pas simplement « je crois, tiens, passe-moi le sel ». Non, croire en Jésus, c'est se mettre à le suivre, à écouter ce qu'il dit, à faire ce qu'il dit. Et j'en connais des gens comme ça, j'en ai vu, même dans ma propre famille. Si une personne n'est pas une brebis du Seigneur, elle ne peut pas croire. On va lire Romains 8, 5, 6. Romains 8, 5, 6. 5, 8, pardon. 8, 5, 8. Or, ceux qui vivent... Bon, on va lire déjà verset 7. L'affection de la chair, c'est-à-dire s'affectionner aux choses de la chair, c'est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, parce qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne le peut même pas. Qu'est-ce que l'affection de la chair? C'est la pensée, la façon de penser, les intentions, les... c'est pas simplement le sexe. Comment pensez-vous? Quelles sont vos intentions? Ça révèle ce que vous pouvez croire. Ça révèle jusqu'où vous pouvez aller dans l'obéissance aux paroles de Dieu. Ça paraît étrange. Il y a des gens qui ne sont pas les brebis du Seigneur. Ah bon? On va lire Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. À 23. Voilà ce qu'il dit. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, je ne sais pas si vous avez Facebook, YouTube ou tous ces trucs, mais on voit des choses, mais c'est infernal. Des gens qui... Parce que quand quelqu'un prie pour recevoir un don, Dieu lui donne. Mais après, si cet homme ou cette femme se détourne de Dieu, il peut continuer à exercer le don, parce que Dieu ne se repent pas de son don, des dons qu'il fait. Mais vous avez des gens qui vivent des choses, c'est infernal, on se demande comment c'est possible. Ben c'est comme ça, ils ont reçu, mais ils n'ont pas continué à marcher avec Dieu, et ça se voit, hein, vous avez des trucs, c'est invraisemblable. Je ne vous ai jamais connu, Jésus dit. C'est une parole étrange, parce que Jésus n'est-il pas omniscient, c'est-à-dire il connaît tout? Comment ça se fait qu'il dit « je ne vous ai jamais connu » Vous vous souvenez de la parabole des 10 vierges? Jésus dit aux vierges folles, « Je ne vous connais pas. » Et elles sont restées derrière la porte. Il ne les connaît pas. Matthieu 25, 12. Mais ça veut dire quoi, ça? Comment ça, c'est possible que Jésus ne connaisse pas certaines personnes? Il ne connaît pas tout, alors. Il dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. Et il nourrit les oiseaux, là. Par la fenêtre, je vois les oiseaux qui sont en train de manger parce qu'on leur a mis des petites boules de graines. C'est Dieu qui les nourrit au travers de nous. Connaître, je ne vous connais pas. Connaître, ça a plusieurs significations. Connaître, ça signifie en avoir l'expérience. Savez-vous ça? Connaître, c'est pouvoir identifier quelqu'un ou quelque chose. C'est aussi entrer en contact avec quelqu'un, faire sa connaissance, l'avoir parmi ses relations. C'est aussi savoir que quelqu'un est pourvu de quelque chose, d'un talent, d'une qualité, d'un défaut et tout. C'est être familier avec quelqu'un, connaître. Quand Jésus dit « je ne vous connais pas », ça signifie « je n'ai jamais expérimenté quelque chose avec vous ». Ça signifie « je ne suis pas familier avec vous ». Vous ne faites pas partie de ma famille, de mon groupe. Combien de fois dans les commentaires que j'ai sur Révélation Bible, les gens me disent « Dieu n'existe pas, Dieu, j'efface parce que je trouve que c'est négatif et ça ne sert à rien que des gens viennent raconter ça sur ma page, je les efface. » Avant j'essaye d'expliquer, je n'explique plus, ça ne sert à rien, les gens continuent, ils blasphèment. Je ne veux pas les pousser à blasphémer, donc c'est tout, je le fasse et puis c'est tout. Je ne vous connais pas, ça peut vouloir dire, vous êtes possédé par un autre esprit que le mien. Parce que quand quelqu'un vient à Jésus et se met à suivre Jésus, Jésus vient en lui et il vit au travers de lui. Pardon. Et quand il dit « je ne vous connais pas », ça veut dire « je ne vous possède pas, vous n'êtes pas à moi ». Je n'ai aucune relation avec vous. Dans le sens biblique, c'est posséder quelqu'un, c'est aussi avoir une relation de marié-femme. Adam connu sa femme et ils auront eu des enfants, enfin, vous connaissez. Mais c'est aussi français, hein, connaître. C'est aussi avoir entendu parler, mais ne pas avoir de relation avec la personne. On a entendu parler, mais Jésus l'a entendu parler, mais il n'a pas de relation avec. C'est aussi fréquenter quelqu'un, connaître. Quand Jésus dit « je ne vous connais pas », Dieu connaît tout le monde, il sait où chacun de nous on en est dans notre relation avec lui. Notre relation avec lui, c'est comme notre relation avec les gens. C'est la même chose. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Je suis en prison, vous êtes venu me voir. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Ben, chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, je suis choqué de voir qu'il y a des gens qui ont commis des choses affreuses, je ne veux pas citer de nom, mais on sait, on entend dans les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision. Et puis des gens disent, ils méritent l'échafaud, ils méritent 20 ans de prison et tout. C'est pas tout à fait chrétien. Hein? Quand on est... Et surtout, il y a des gens qui se prétendaient amis avec... Et puis ils ont laissé tomber. Alors hier j'entendais quelqu'un qui disait « Oui, mais ils ont certainement leur raison d'avoir laissé tomber. » Non, Jésus ne laisse tomber personne. Dans Jean 10, 27, on va lire, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. » Donc il y a une relation intime. Je les connais, elles me connaissent. Elles entendent ma voix, dans le sens qu'elles entendent avec leurs oreilles, mais aussi elles comprennent. Le mot « entendre », ça signifie aussi comprendre. Jésus vous connaît pour ce que vous êtes et par ce que vous faites. Il ne se fait pas d'illusions. Jésus donne la vie éternelle à ceux qui le suivent, qui font sa volonté, et personne ne les ravira de la main de notre Père Céleste. Ça, c'est ce que Jésus dit. Ça donne une grande assurance. Ça donne une grande assurance. Jésus dit plus loin, on va lire dans Jean 10, verset 34. J'espère que je vais le trouver. Oula, oui, il est là. Jean 10, 34. Voilà ce qui est dit. Les juifs, c'est pas les juifs, c'est les religieux juifs. Mais quand les apôtres écrivent, ils savaient très bien ce que ça voulait dire à l'époque. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les religieux juifs lui répondirent : ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit : mais n'est-il pas écrit dans votre loi, dans la Torah qu'ils lisent toujours, dans la synagogue, n'est-il pas écrit dans votre loi, Dieu dit, vous êtes des dieux. Si la Torah, si votre loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être anéantie et anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes ? Est-ce là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu ? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je, les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. C'est taillé. On voit très bien ça dans le film Chosen, je vous le recommande, c'est une série. Pour le moment, il y a 4 saisons, vous pouvez commander ça dans n'importe quelle bonne boucherie, à la FNAC, sur Internet. On voit très bien comment ça se passait. Qui sont les dieux ? Nous ? La Bible dit que vous êtes des dieux. Mais qui ? Ceux à qui la parole de Dieu, de Jésus, a été adressée, a été envoyée. Et Jésus dit, l'Écriture ne peut pas être anéantie. Donc, vous êtes des dieux. Et puis, là-dessus, ils ont cherché à le saisir pour le faire mourir, mais il s'est taillé. Ce que nous avons fait aussi, nous, on s'est taillé. Dans Jean 8, 59, là aussi, il se barre. Dans Jean 12, 36, il se cache d'eux. Car ces gens ne peuvent pas croire, car Dieu... C'est écrit, hein? Car Dieu a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne se convertissent. Vous voyez qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu a des peurs aussi. Ah non, celui-là, je ne le veux pas dans mon paradis. Quelle horreur! Alors, ils ferment leurs yeux, ils ne voient pas, et ils bouchent leur cœur, Il y a des gens que Dieu ne veut pas dans son paradis. Et je le comprends aisément. Il y a des gens, on ne les veut pas chez nous. Pourquoi ? Il y a des raisons. On va lire Jean 8, 51, 59. Jean 8, 51. Mais où est-ce que j'en suis dans mes petites notes là ? Ouh là là. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc s'il a entendu ma parole, qu'il la garde, qu'il la met en pratique, il ne verra jamais la mort. Maintenant, et lui dit, à les juifs, toujours les religieux, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Ils disaient que Dieu était leur Dieu. En fait, ils avaient une religion, c'est tout. Vous avez une religion. J'entendais aujourd'hui un rabbin, c'est sur YouTube, hein, qui lisait le Talmud où il est écrit « Un homme qui ne se marie pas est dans le péché exactement comme un meurtrier. » Bravo le Talmud, hein, c'est formidable, on dirait le Coran. Hein, c'est pas? Heureusement que Jésus est venu pour balayer toutes ces choses-là. Mais ceux qui ne veulent pas entendre, ils n'entendent pas. C'est effarant. C'est effarant de croire des bêtises pareilles. C'est pas écrit dans la Bible, ça. C'est dans leur Talmud, c'est-à-dire leur tradition orale, leur machin humain. Mais il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que c'est stupide. Le père qui se convertit, s'il ne veut pas cette sorte de gnome chez lui. Jésus dit aux religieux, vous dites que Dieu est votre Dieu et vous ne le connaissez pas, c'est-à-dire, vous n'avez pas de relation avec lui. Alors ils ont lapidé, et il s'est caché, il est sorti du temple, il s'est taillé, il s'est barré. Une question que je me pose, c'est, mais pourquoi il leur parlait tellement? Pourquoi il passait tellement de temps à leur parler? Ben, la réponse, elle est dans Matthieu 24, 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle doit être annoncée par tout le monde, pas pour que tous se convertissent, mais pour que ça serve de témoignage. Pour que ça serve de témoignage. Quand ils arriveront devant Dieu, ils ne pourront pas dire, on n'a jamais entendu parler de ça, on ne savait pas. Si tu savais, mais t'as pas voulu obéir parce que t'as une sale tête, t'as une tête de linotte, comme on dit en Suisse. Je sais même pas ce que c'est une linotte, mais une tête de linotte, ça doit vouloir dire une tête dure. Ou un cou raide, peut-être, ça c'est le terme biblique. Mais la Bible dit que seuls ceux que Dieu appelle seront sauvés. Alors, qu'est-ce qu'il leur reproche? Jean 6, Jean 6, 44, 47. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. On pourrait dire, pourquoi les blâmer, puisqu'il ne les attire pas? Il leur a bougé les yeux, il leur a fermé le cœur. Dieu attire les siens. Il est venu chercher les siens. Ceux qu'il veut avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas avec lui pour l'éternité des gens qui sont de la lignée du diable. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est encore que cette doctrine? Ça fait 150 ans que je vous la prêche. Je vais vous lire dans Genèse, chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. Je vous rappelle que le serpent, il était comme un homme, il avait des pattes, il parlait. Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une relation avec Ève et ça a donné Cain. Vous me direz, non, je vous dis oui, taisez-vous, vous ne savez pas. Cherchez, vous comprendrez. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le serpent a un lignage. Il y a une postérité dans l'autre version. Dans Genèse 6, on peut trouver ça aussi, on peut le lire, je pense que c'est pas défendu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, mais des anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ah, verset 4, les géants étaient sur la terre, etc., etc. Et dans Corinthiens, c'est écrit que la femme qui prie doit se voiler à cause des anges. Pourquoi ? Parce que quand elle se voile, elle montre par là sous quelle autorité elle est, qu'elle est mariée et que les anges déchus ne peuvent pas la toucher. Vous ne voulez pas porter le voile en priant ? Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Moi, je m'en fiche, je vous dis la vérité. Vous en voulez, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas mettre de voile en priant, mesdames ? Mettez pas de voile. Moi, ça m'est égal. Vous montrez votre cœur. Ou alors, simplement, ça que vous ne savez pas. Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs pour prêcher l'Évangile. Dans Jean, chapitre 8, verset 44, voilà ce qui est dit. Il dit ça encore à des religieux. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez pas. Et il leur explique pourquoi. Il dit, vous avez pour père le diable. Bon, moi j'ai pour père, je vous ai dit, je suis né le 5 février 1950, mon père c'est Charles-Édouard Genton. Je ne peux pas changer de père. Je peux faire les pieds au mur, je peux faire tout ce que je veux. Mon père, c'est Charles-Édouard Genton. Il dit, vous, votre père, c'est le diable, c'est pas Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Voilà. Parce que il y a des gens qui n'ont pas la même nature sur cette terre. Il y a des gens qui sont de la postérité du lignage de Satan, et puis d'autres qui sont du lignage de Dieu. Il y a eu des mélanges qui ont été faits. Ce qui fait que nous avons tous un cerveau reptilien, on a tous quelque chose de mal, on est tous perdus, on a tous besoin de Jésus pour être sauvés. Mais quand on entend sa voix, un fils de Dieu, il reconnaît la voix de son Dieu et se met à le suivre. Les autres, ils deviennent religieux ou païens finis, blasphémateurs et compagnie. Dieu attire les siens, ceux qu'il veut avec lui. Il ne veut pas prendre tout le monde. Il ne veut pas les fils du diable. Vous les voulez, vous, les fils du diable, avec vous, au paradis, ou ça vous amuse? Vous ne trouvez pas que déjà, ils ont mis pas mal de pagailles sur la terre? Eh bien, hein, ce qui se passe sur la terre en ce moment, vous avez vu? Hier, je voyais en reportage, ils ont découvert des ruines, je ne sais plus dans quel pays. Alors ils disent tout de suite, oh, ça devait être un temple et tout. Puis quelqu'un dit, ouais, Chaque fois qu'on trouve quelque chose, on dit que c'est que ça a à voir avec la religion. Bientôt, même McDonald's, dans 300 ans, quand on retrouvera un McDonald's, on dira que c'était un truc religieux. Mais oui, c'est un truc religieux, vous avez vu, ils font même des sacrifices humains. Dernièrement, il y a un vieux de 77 ans qui a sacrifié un autre vieux dans un McDonald's. Il l'a tué. C'est religieux, ça, l'acte de tuer les gens. C'est une petite parenthèse stupide pour vous faire réaliser que le monde est fou. Vous le savez déjà que le monde est fou. Jésus précise, quiconque entend, comprend et reçoit l'enseignement de mon Père, viennent à lui.
Oui, mais nous, on est dans la grâce, on est dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans l'Ancien Testament, donc on n'est pas obligé de faire ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. On fait.
Jésus dit, il y a des lois sacrificielles, il n'y a plus besoin d'y obéir. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il a été très clair au sujet du Shabbat pour les chrétiens. Le Shabbat, c'est tous les jours le jour du repos, on n'a plus à le faire. Il y a des tas de petites choses comme, par exemple, le porc, on peut en manger, dans le Nouveau Testament, c'est écrit. Par contre, la dîme, c'est toujours d'actualité. Il dit, c'est bien que vous donniez votre dîme, mais ça ne suffit pas, il y a d'autres choses encore à faire. C'est dans le Nouveau Testament. Et Dieu ne change pas ce qu'il dit, c'est toujours vrai. À moins qu'ils disent non, maintenant c'est fini. Mais il a dit c'est fini par exemple pour le Shabbat, il a dit c'est fini pour la circoncision, il a dit tant mieux, hein, je suis bien content. Mais bon voilà. Recevoir, ça signifie être atteint. Il a reçu son enseignement, ça veut dire qu'il était atteint par l'enseignement. Recevoir, ça signifie aussi empocher, encaisser, prendre. C'est le contraire de se défaire. Recevoir, ça signifie prendre ce qui est donné, accepter ce qui est donné. C'est aussi absorber. Donc, nous sommes tous les destinataires de ce que Dieu enseigne, mais tous ne l'accueillent pas. Tous n'accueillent pas les enseignements de Dieu. Il y en a, c'est par ignorance. Il y en a, c'est par mauvaise volonté. Ils ne le reçoivent pas. Tous n'entrent pas en possession de ce que Dieu enseigne, de ce que Dieu offre. Pour notre bien, d'ailleurs. Quand Dieu dit quelque chose, c'est jamais pour notre mal. Jamais. Dans le Talmud, oui. Le Talmud, le Coran, tout ça. L'autre jour, quelqu'un m'a dit... Mais c'est écrit où qu'il faut tuer les chrétiens et les juifs dans le Coran? Je dis Sourate 9. Je connais, il faut arrêter de me raconter des histoires. Je connais. Je sais, je lis, je m'informe. C'est pas par racisme, c'est simplement parce que je connais. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Celui qui ne reçoit pas ce que Dieu enseigne ne sera pas reçu par Dieu. C'est tout. C'est pas compliqué. Vous n'en voulez pas maintenant, il ne vous voudra pas après. Vous allez me dire, ah ben tant mieux, parce qu'alors, vivre toute l'éternité avec des, en Suisse on dit des momiers, vous savez, avec ceux qui, avec les religieux et tout. Non, non, dans le paradis, il n'y aura pas de religieux. Hein. Non, pas de religieux. Il y aura des gens qui ont aimé Jésus et qui l'ont prouvé. Il dit, Jésus leur dit, je ne te connais pas. Recevoir l'enseignement du Père, c'est montrer son cœur. Ne pas le recevoir, c'est aussi montrer son cœur. Dans le texte que nous avons lu au début, dans Jean 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Or, suivre une religion, c'est pas forcément suivre Jésus. Beaucoup de gens se cachent derrière une phrase pour dire « Mais la Bible a été trafiquée !» Non ! Non, non, non ! Non ! Je vais vous lire Jérémie, chapitre 1, verset 12, voilà ce qu'il dit. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est du septentrion de l'extrémité du nord que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, du septentrion, par rapport à Israël. Dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles et tout autour de la ville. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à notre Dieu, parce qu'ils sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, leurs idoles qui disent
« Mais non, c'est pas des idoles, on prie près des statues !»
Et pourquoi vous mettez à genoux devant ?
C'est parce que...
Car ils trouvent toutes sortes d'excuses. Non, la Bible n'a pas été trafiquée. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur ce qu'il a dit pour l'exécuter. Et ce que nous avons dans la Bible n'a pas été trafiqué. Il y a des traductions différentes parce que les mots changent de signification au cours des siècles. Si vous prenez une vieille version de la Bible, vous trouverez au sujet de la Vierge Marie « Et la garce deviendra enceinte ». Pourquoi ? Parce que la garce, à cette époque, au Moyen-Âge, c'était le féminin d'un gars. Un gars, une garce. Aujourd'hui, le mot a changé. Voilà pourquoi on a besoin d'avoir de nouvelles traductions, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire la jeune fille, la vierge. Beaucoup de gens se cachent derrière cette phrase. Eh bien non, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et le mal viendra du nord. Voilà ce qui est la réalité. Bientôt, ça va arriver. Vous allez le voir, c'est pour notre génération. La Bible dit que c'est pour notre génération. Vous allez le voir. Ça commence à venir, hein. Ça commence à venir. On va dire Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Il veut sortir le chien. Matthieu 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, etc., 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 vous lirez ça chez vous tranquillement, ça vous fera du bien. Vous ne voulez pas accomplir ce que Dieu dit ? C'est la montre qui vous êtes. Tant que le ciel et la terre subsistent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre. À part quand Dieu change d'idée. Pas d'idée, mais par exemple, comme je vous ai dit, pour la circoncision, pour les non-juifs, pour manger du porc. L'autre jour, c'est fort. Une femme qui m'engueule sur Internet, en me disant, ouais, vous vous dites chrétien, puis vous mangez de la viande, vous êtes des viandards, vous faites partie d'une religion de Satan. Ah, je dis, ah bon ? Mais pourtant, c'est écrit que Pierre a vu un voile descendre du ciel, il y avait des animaux impurs dedans, des porcs, donc toutes sortes de bestioles, et Dieu a dit, tue et mange. Elle dit, non, c'est un texte trafiqué, c'est pas vrai. Ah, je dis, ah bon ? Donc, quand Jésus mangeait du poisson, ça, le poisson, c'est quand même, c'est pas un légume, il le mangeait vivant. Vous imaginez Jésus qui prend un poisson dans la mer, puis qu'il bouffe vivant, tout frétillant comme ça. Et puis à Pâques, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il n'a pas pris l'agneau pascal, il n'a pas suivi. Alors, vous voyez, c'est des gens qui nous traitent de Satan, mais qui ne connaissent même pas la Bible, qui ne savent pas, et... Bon, voilà. Ben. Elle était tellement impolie que je l'ai bloquée, puis voilà, c'est tout. Il y en a marre. Jésus s'en alla et se cacha. Moi, au bout d'un moment, je me cache aussi de ces gens-là. Je ne veux pas avoir de relations avec des gens qui me cassent les pieds, qui sont toxiques, qui sont impolis surtout. Qui sont impolis, terriblement impolis. Certains disent, ah oui, mais ça c'était pour autrefois, c'est plus pour aujourd'hui. Par exemple, les miracles. Les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. Alors pourquoi vous priez? Une simple prière exaucée, c'est un miracle. Puis vous dites que les prières, vous dites que les miracles, c'est fini, c'est plus le temps des miracles. Un branhamiste m'a dit, les prophéties, les miracles, les langues, tout ça, ça passera quand ce qui est parfait sera venu. Je dis oui, quand Jésus sera venu. Non, 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 quand Branham sera venu. Parce que Branham a été parfait. Bon. Alors, je commence à parler de la pluie et du beau temps parce que je dis si je rentre dans cette discussion, ça ne sert à rien du tout. Croyez ce que vous voulez entre votre parole et celle de Dieu. Moi, j'ai vite fait le choix. J'écoute, je reçois et je fais du mieux que je peux avec son aide. Je n'ai pas de religion pour me dire ce que je dois faire ou ce qui n'est plus à faire. Le lavage des pieds. Ah oui, non, mais ça, c'était... Bon, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais je vous le dis en vérité, à la vitesse où vont les choses, les événements, ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, c'est peut-être mon dernier message. Que Dieu vous aide à comprendre. Amen.